La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par Impact Centre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Agnès, chargée de sensibilisation au sein de l'association Impact Centre. Impact Centre est une association où nous incitons les élus et citoyens à s'impliquer dans l'agriculture et l'alimentation de leur territoire. Dans chaque émission, je vous emmène à la rencontre d'acteurs qui mettent la main à la pâte pour trouver des solutions qui rendent le milieu agricole et rural plus durable. Dans cette émission, je vais interviewer Pauline qui est coordinatrice d'Impact. Elle nous présentera les activités de l'association, puis nous irons ensuite rencontrer des élus qui s'impliquent localement. Bonjour Pauline, donc est-ce que tu peux te présenter et nous en dire plus sur l'association Impact Centre ?
Oui, donc bonjour à tous et toutes. Donc je suis Pauline Salcedo, je coordonne le pôle Impact Centre. Sur toute la région Centre-Val de Loire. Impact, ça veut dire initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. C'est une association qui fédère de nombreuses associations qui travaillent sur tout l'ensemble de la région et qui œuvrent tous les jours pour faire une transition de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une transition ? C'est replacer l'agriculture aujourd'hui au cœur de nos projets de société et de préserver les ressources pour les générations futures. C'est une transition par rapport à un modèle qui jusqu'à maintenant était plutôt de voir l'agriculture comme juste une visée productive où on avait l'objectif de l'agriculture, c'était de produire des ressources et produire des biens pour l'alimentation, mais sans prendre en compte toutes les conséquences de l'agriculture et l'alimentation sur notre environnement. Donc Impact, depuis la création de ces associations, œuvre sur le territoire pour participer au développement local des territoires, pour développer une agriculture qui protège l'environnement, une agriculture qui participe au dynamisme local, qui crée des emplois, etc. etc. Aujourd'hui, on a 9 membres sur le territoire de la région Centre. Des associations peut-être que vous connaissez comme Terre de Liens qui travaille sur le foncier et qui achète des fermes ou les CIVAM qui accompagnent des agriculteurs et des agricultrices dans leur changement de pratique ou les ADAR par exemple qui sont des associations qui accompagnent pour maintenir l'emploi en milieu rural et avoir de nombreux agriculteurs et agricultrices. On a aussi Solidarité Paysan qui aide les agriculteurs et agricultrices qui sont en problématique sur leur ferme et Accueil Paysan pour faire de l'accueil à la ferme, une association qui travaille sur les ressources génétiques aussi en région. Voilà.
D'accord. Donc dans cette émission, nous parlons de l'engagement des citoyens pour l'agriculture et l'alimentation de leur territoire et aussi l'engagement des élus. Donc est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux de l'agriculture qui sont liés à l'action locale ?
Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on mange tous les jours, ça a un impact énorme sur énormément de secteurs et sur notre environnement. On s'en rend pas forcément compte, mais bon, d'abord au niveau environnemental, l'alimentation des Français aujourd'hui émet 35% des émissions carbone françaises. Et ben, changer notre alimentation, c'est la possibilité de diminuer par exemple de moitié ces gaz à effet de serre. Et donc de changer notre impact sur le changement climatique actuel. Mais c'est plus que ça, c'est aussi tout ce qui est sur les pratiques agricoles, elles ont de fortes répercussions sur les ressources naturelles, type pollution de l'eau, dégradation des sols, et du coup des conséquences sur la biodiversité. Aujourd'hui, l'agriculture intensive, c'est la première cause de déclin de la faune sauvage en France. Et si on choisit des méthodes de culture ou d'élevage vertueux, on peut participer à préserver la qualité des eaux, donc diminuer par exemple les traitements des eaux sur notre territoire, préserver nos sols et diminuer notre impact sur la biodiversité. Ce qu'on oublie souvent, c'est que nos choix en termes d'agriculture, d'alimentation, ça va beaucoup plus loin que juste le côté environnemental. Ça va être au niveau économique, par exemple. C'est la vitalité de nos territoires qui est en jeu. On sait qu'il y a 260 exploitations agricoles qui disparaissent chaque semaine en France. En 1970, il y avait 85 000 exploitations en France. Aujourd'hui, on est à 25 000. Donc, toute cette perte d'emplois agricoles, ben, c'est la désertification de nos campagnes, c'est la fermeture d'écoles, d'hôpitaux, c'est nos services publics qui disparaissent. Et donc, promouvoir un autre type d'agriculture, changer cette vision de l'agriculture, ben, c'est redynamiser nos campagnes, c'est recréer de l'emploi. Et puis, en plus, je ne vous parle même pas de toute la filière qui va derrière, hein, une filière locale de transformation, de commercialisation, c'est de l'emploi et c'est de la valeur ajoutée sur nos territoires. Bon, après, un autre exemple, c'est les paysages. Suivant l'agriculture de notre territoire, ça façonne énormément nos paysages. Si on a des haies, si on a du bocage, ça change tout. Et puis après, une autre chose sur ce qu'on mange tous les jours, l'alimentation, ça a un impact très fort sur notre santé. Aujourd'hui, c'est prouvé, les Français les plus pauvres ont du mal à manger sainement. Et donc, du coup, l'influence sur leur santé est très forte. Et l'inégalité d'accès à une alimentation de qualité, eh ben, c'est vraiment quelque chose qu'on peut essayer de changer tous les jours. Donc les retombées de l'agriculture, l'alimentation sur nos territoires, en fait on pourrait les voir en changeant quelques petites choses, on peut les voir, c'est multiple sur nos territoires et ça peut être très vite visible. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme je vous le disais au départ, qu'on a une vision d'une agriculture multifonctionnelle, pas seulement à viser de production d'un bien agricole. Ce qu'on veut, c'est que ce que l'on mange, eh ben, ça peut vraiment changer le monde dans lequel on vit.
On a une bonne idée de tous les enjeux de l'agriculture et de l'impact de l'agriculture sur le milieu rural et sur notre territoire. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que peut faire un citoyen pour changer tout ça ?
Déjà, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on voit tous ces enjeux, on peut être un peu perdu et on se dit mais comment on va changer les choses. Et si on regarde au niveau des politiques nationales, mondiales ou même européennes, quand on regarde la PAC, on a l'impression que tous les enjeux ils sont vraiment imbriqués, que c'est tout corrélé, tout systémique et que c'est très difficile de changer. Mais quand on va s'intéresser au local et qu'on va voir un petit peu, ben, peut-être très rapidement les conséquences de ce qu'on fait au jour le jour, ça peut déjà être un peu plus motivant et puis ça peut donner de l'espoir sur le fait que les choses peuvent changer. Et alors on parle souvent de manière individuelle comment on peut changer les choses. Et ben la première chose c'est choix de consommation. Hein, on va consommer des produits de qualité, bio ou pas bio, si jamais on connaît suffisamment les agriculteurs pour connaître leur manière de produire. On va essayer d'acheter en circuit court, éventuellement si possible de proximité. On va essayer de connaître ces agriculteurs pour comprendre leurs difficultés, leurs réalités, etc. Ces changements de consommation, ils vont vraiment influer ensuite les grandes tendances nationales et mondiales. On peut aussi, par exemple, placer son épargne dans le mouvement Terre de Lien qui achète des fermes en groupement foncier agricole. Mais on a toujours du mal, nous, à Impact, et moi-même personnellement, à réduire un peu le pouvoir du citoyen à juste son porte-monnaie. C'est une vision, au final, un peu consumériste des choses, parce que ça veut dire que c'est seulement celui qui a de l'argent, en fait, qui peut changer le monde, et celui qui n'en a pas, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, je pense que c'est pour ça qu'à Impact, on est plutôt aussi sur promouvoir des actions collectives et des actions politiques. Mais les actions collectives, s'engager pour faire changer la cantine de l'école de ses enfants et décider, en tant que parent d'élève, de faire changer ce qui s'y pratique. On peut aussi s'engager dans des AMAP, on peut s'engager dans énormément d'associations en tant que bénévole pour faire avancer des projets, pour accompagner des porteurs de projets qui veulent s'installer, pour accompagner des projets de supermarchés collaboratifs, etc. Et puis, on a aussi dans nos associations comme Terre de Liens ou plein d'autres associations besoin de bénévolat au jour le jour.
D'accord, merci Pauline. Et du coup, on a vu aussi que les élus locaux pouvaient s'engager. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'ils peuvent faire à leur échelle ?
Ah oui, nous, vraiment, on part du principe que l'individu tout seul ne pourra pas faire si les élus ne sont pas caisse de résonance de toutes ces initiatives sur le territoire. Hein. Pour nous, tout doit venir du territoire et les élus sont là pour reprendre un petit peu ces grandes tendances et ancrer et permettre ces initiatives de se réaliser, notamment. Et la première chose pour moi, c'est que les élus, ils doivent être là pour favoriser et appuyer l'ensemble de ces initiatives bénévoles ou personnelles d'installation de fermes. Et puis, au niveau des politiques, par exemple, communales, il y a vraiment travaillé sur la gestion du foncier pour favoriser une installation qui va préserver l'environnement, les paysages, éviter l'agrandissement des fermes. Il y a vraiment des choses dans le cadre de PLU, de faire attention au zonage agricole, d'interdire la construction, préserver la biodiversité avec des trames vertes, bleues, etc., de travailler sur des zones agricoles protégées. Il peut y avoir toute une réflexion sur les friches agricoles et pour les repérer. Une incitation aussi à la transmission, repérer par exemple les agriculteurs qui vont partir à la retraite pour s'assurer et les accompagner dans la transmission de leur ferme. Il y a du travail autour d'exonérer par exemple aussi les taxes foncières pour les jeunes agriculteurs, de créer des espaces tests pour encourager l'installation et les accompagner. Donc au niveau du foncier, il y a déjà énormément de choses qui peuvent se faire. Ensuite, il y a un deuxième levier assez fort, c'est tout ce qui est autour aujourd'hui des cantines scolaires. Donc ça, c'est pour les élus autant municipaux que départementaux que régionaux. Il y a vraiment ce côté où ils gèrent des cantines. Et donc là, assurer que les cantines deviennent un débouché pour les producteurs locaux, ça permet de garantir un repas équilibré aux élèves, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 7 millions d'enfants qui mangent au moins une fois par semaine à la cantine en France. Donc, c'est vraiment un levier. C'est pas simple de changer aujourd'hui les habitudes d'approvisionnement dans les cantines. Mais en travaillant à la fois sur des changements de pratiques et d'un autre côté aussi sur l'organisation de la filière pour fournir ces cantines, il y a vraiment des leviers possibles pour à terme favoriser une alimentation de qualité pour nos enfants et en même temps répondre aux besoins des agriculteurs de notre territoire. Après, il y a aussi d'autres actions qui sont peut-être plus nouvelles, mais qui peuvent être réfléchies sur tout ce qui est l'aide sociale alimentaire, les banques alimentaires sur un territoire, comment on favorise l'accessibilité, notamment aux plus pauvres, d'une alimentation locale et de qualité. Que l'alimentation bio et locale ne reste pas seulement pour des classes privilégiées. Là, je pense aussi que les élus peuvent avoir des choses à inventer pour favoriser cette accessibilité.
On voit qu'on a des actions déjà connues sur le foncier et la restauration collective, notamment avec des obligations aussi pour les élus en restauration collective de fournir des produits locaux et de qualité, et des actions qui sont plus en recherche aussi, notamment avec le Covid, sur l'accessibilité alimentaire qui devient un enjeu prioritaire avec les ménages qui ont moins de pouvoir d'achat. Parfois, on voit donc dans certaines communes que des élus ont du mal à s'investir sur les mesures alimentaires et environnementales pour leur territoire et agricole. Et du coup, est-ce qu'il y a des moyens pour les citoyens de faire pression un petit peu sur leurs élus pour qu'ils agissent dans ce sens ?
Je dirais qu'il y a déjà une première chose, c'est une question de légitimité en fait des élus. Souvent, certains élus, suivant leur échelon, vont vous dire « c'est pas notre compétence, l'agriculture, c'est pas notre compétence, l'alimentation ». Donc il y a déjà au moins un message à faire passer, que Impact cherche à faire passer, mais on n'est pas les seuls, que la compétence agricole alimentaire, c'est souvent une compétence de tous et toutes, dans les communes, parce que comme on l'a vu, l'alimentation et l'agriculture, ça va influencer sur l'économie, sur le foncier, sur l'urbanisme, sur la santé, etc. Donc en fait, quelle que soit la compétence de la collectivité, il est possible d'agir sur l'agriculture et l'alimentation. Donc déjà, c'est la première chose à faire passer. Et donc en tant que citoyen, c'est important de faire passer ce message qu'en tant que toutes les collectivités peuvent agir sur des actions agricoles, alimentaires. Ensuite, je dirais la première chose, c'est d'étudier les au moment de voter, d'étudier les programmes des différentes personnes qui se présentent et de voir qu'est-ce qu'elles proposent sur l'alimentation et l'agriculture, éventuellement sur vos territoires, au moment des élections, de favoriser des réunions, des interpellations des candidats sur qu'est-ce que vous voulez faire sur vos territoires, qu'est-ce que proposent ces candidats sur l'alimentation et sur l'agriculture. Bon, l'année dernière, Impact au niveau des municipales a essayé de favoriser ces temps d'échange où les citoyens regardaient ensemble les programmes des élus ou on essaye d'interpeller les élus sur qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire. Après, une fois que vous avez des personnes élues, je pense qu'il y a aussi, vous pouvez continuer à vous engager dans les associations et favoriser ce lien avec notamment les municipalités. Et vous pouvez monter des collectifs sur vos territoires et notamment, je pense à un outil, hein, par exemple, les collectifs du pacte pour la transition et essayer de voir avec les élus sur votre territoire s'ils peuvent être amenés à signer une ou plusieurs actions de ce pacte qui les engagent à avancer sur ces thématiques.
D'accord, merci beaucoup Pauline pour toutes ces informations. Et on va maintenant voir des élus qui s'engagent sur leur territoire. Donc je suis maintenant avec Stéphane Ledoux, vice-président à l'agriculture et à la viticulture de la communauté d'agglomération de Blois. Donc bonjour Stéphane.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre poste de vice-président ?
Bien, le rôle tel que je conçois du VP chargé de l'agriculture, c'est d'apporter un regard un peu différent auprès du président et des autres élus, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a de moins en moins d'élus qui sont issus de l'agriculture, que ce soit dans les conseils municipaux ou dans les communautés d'agglomération. Quoique sur Aglopolis, il y a quand même pas mal d'agriculteurs, quoi. Donc voilà, c'est d'aider à faire émerger des projets, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, donc on donne toujours un petit coup de main, et puis moi j'aime ça, donc j'aime mieux du concret que des grandes discussions. Hein. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la compétence agricole, elle est essentiellement européenne et régionale. L'agglomération n'a que peu de moyens à mettre en œuvre pour ça, mais quand même, elle a défini une politique, et notamment une politique plutôt collective. On ne soutient que des projets qui sont collectifs. Des soutiens individuels, il y en a eu, mais vraiment très très peu, notamment une aide en 2016 où, suite aux inondations, la communauté de communes a décidé d'aider les agriculteurs qui avaient été impactés dans le secteur, quoi. Et on fait aussi des aides à la promotion de nos produits AOC. Donc il y a 5 AOC en viticulture et il y a 2 AOC au niveau des fromages de chèvre. Donc on aide à la promotion par le biais de Papillon Fête, par le biais de la fête des vendanges, le salon des vins à Onzain, BD Boom, les rendez-vous de l'histoire, tout ça, ce sont des lieux où on met en avant nos produits locaux. Donc voilà un peu le rôle du vice-président en charge de l'agriculture. Et il jette aussi un œil bienveillant au niveau du plan local d'urbanisme pour essayer d'articuler au mieux possible les intérêts des agriculteurs et les intérêts des habitants. Voilà en quelques mots ce que l'on peut dire sur le rôle du vice-président.
Et du coup, on parle beaucoup d'agriculture, d'AOC. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte agricole de la communauté d'agglomération qui est quand même plutôt urbaine et nous faire un peu un portrait ?
Voilà, il y a quand même plusieurs secteurs sur l'agglo. Vous avez le nord de l'agglomération qui est le secteur Beauce. Petite Beauce, donc c'est plutôt des exploitations céréalières hein, dans cette zone-là. Vous avez la zone Val-de-Loire et puis la zone un peu plus Sologne, quoi. Où, donc là, on a quand même des cultures qui sont un peu différentes. Hein. L'élevage, il est quand même plutôt concentré sur le sud de la communauté d'agglomération et les céréales au nord, quoi. Qu'il y a quand même des céréales et du légume sur la partie Val-de-Loire, quoi. Donc c'est un territoire quand même qui est assez diversifié au niveau du type de culture.
Dans ce contexte agricole diversifié, on voit qu'on a quand même de plus en plus de constructions d'habitations, de zones d'activité. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des réflexions menées sur la préservation des terres agricoles ?
Bah oui, dans le cadre du PLUI, c'est un domaine sur lequel on est attentif. Et aussi où l'État nous demande de faire des efforts à ce niveau-là, c'est-à-dire de grignoter le moins possible et, si ce n'est pas possible, le plus intelligemment possible, les terres agricoles sur le secteur de l'agglo. Notamment les zones artisanales et industrielles, qui sont plutôt situées au nord de l'agglo et qui impactent directement les meilleures terres de la communauté d'agglomération, quoi. Donc il faut être vigilant. La Chambre d'agriculture donne aussi son avis à ce niveau-là. Quand il faut agrandir une zone industrielle, nous dit bon, ben voilà, c'est plutôt dans ce secteur-là que dans ce secteur-là qu'il faut réaliser vos aménagements. Et puis, même sur les parties habitation, l'objectif est quand même de regrouper au maximum les habitations pour éviter le mitage et qu'il y ait trop de proximité entre les habitations et le monde agricole, qui génère souvent des difficultés. Quand il y a un élevage qui se situe trop près des maisons, ça pose des difficultés. Maintenant, quand il y a des désherbants employés trop près des maisons, ça pose aussi des difficultés que l'on peut parfaitement concevoir. Donc il faut tâcher d'organiser ça au mieux dans le cadre du plan local d'urbanisme.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le PLUI ?
C'est le plan local d'urbanisme intercommunal.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu le rôle de ce document ?
Ben c'est organiser au niveau de l'agglo les constructions sur la communauté d'agglomération. Avant, les documents d'urbanisme étaient gérés directement par les mairies. Et chaque mairie faisait son plan local d'urbanisme. Bon, la loi a évolué. Maintenant, ce sont les communautés de communes qui sont chargés d'établir des plans intercommunaux, ce qui fait qu'on a quand même des plans maintenant qui se ressemblent d'une commune à l'autre, mais surtout qui permettent de dégager des priorités. La priorité, c'est donc, on en a parlé tout à l'heure, une des priorités, c'est de consommer le moins d'espace possible, mais aussi de rationaliser les lieux d'habitation avec les lieux de travail, pour faire habiter les gens à 30 km de leur lieu de travail. Donc ça permet d'organiser tout ça un peu mieux, de façon à organiser aussi les transports à un peu mieux et d'être beaucoup moins énergivore au total. Voilà, c'est un plan d'un PLUI, c'est l'organisation du territoire.
Autour de Blois, on voit des zones maraîchères se développer, comme par exemple la zone de la Vacquerie ou d'autres zones dans le même coin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle joue l'agglopolis dans la reconquête de ces friches agricoles ?
Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect reconquête et l'aspect installation. Les maraîchers ont énormément de mal à s'installer parce qu'il faut qu'ils trouvent des espaces pour et des espaces aussi équipés. Il leur faut absolument de l'eau à proximité. Donc dans le secteur Vacquerie et au bout du pont François Mitterrand, la communauté d'agglomération a aidé fortement, ainsi que la ville de Blois, en mettant des terrains à disposition et en équipant une partie de ces terrains, à faciliter l'installation de deux maraîchers. Il y en a un troisième là, qui va s'installer cette année, hein, qui sort de la couveuse organisée par le lycée horticole. C'est-à-dire que le maraîcher passe un an ou deux aidé par le lycée horticole pour estimer la viabilité de son projet. Et après seulement, il s'installe sur des terrains. Donc nous, on aide à l'installation de ces jeunes ou moins jeunes. Ils ne sont pas forcément très jeunes. Il y a un peu tous les âges, mais ils sont aidés. Donc comme ça, on favorise l'alimentation de proximité, hein, et surtout, on permet d'installer quelqu'un, parce que sinon, c'est très, très difficile de s'installer s'il n'y a pas un coup de pouce, soit des communes, soit des communautés de communes.
D'accord. Et pour la partie viabilisation des terrains ?
Bon, la viabilité, bon, là, c'était un système d'arrosage, un système de forage plutôt, soit à rénover dans un cas, soit à construire dans l'autre cas, de façon à ce qu'ils aient accès à l'eau, parce que ça, c'est pour un maraîcher, c'est indispensable.
Et à part le terrain de la Vacquerie, est-ce qu'il y a d'autres terrains sur lesquels vous avez joué un rôle dans l'agglo ?
Non, celui où, au bout du pont, François Mitterrand, j'ai oublié le nom hein, de la parcelle, où il y a Harry Régent qui s'est installé, et il y a quelques opportunités sur d'autres secteurs, mais pour l'instant, qui n'ont pas abouti.
Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les futurs projets ou les grandes orientations que l'agglo souhaite donner pour les 5 prochaines années dans le secteur agricole et viticole?
Il y a quelques projets concrets là, qui sont au début de la réflexion. Un des projets est de récupérer les eaux usées de la station d'épuration afin de leur trouver une utilité agricole. Hein. De toute façon, éviter de consommer de l'eau qui est quand même un bien précieux. Il y a une étude qui est menée avec les SAFER aussi pour retrouver des espaces agricoles, du foncier délaissé, des terres qui ne sont pas louées à des agriculteurs, donc d'essayer de répertorier tous ces terrains-là et de voir comment on pourrait les mettre à disposition sous forme de loyer, bien sûr, hein, auprès d'agriculteurs, notamment de viticulteurs, mais pas que. Et on a aussi un projet de méthaniseur hein, sur la communauté d'agglomération au nord de Blois, un regroupement entre... une bonne dizaine d'agriculteurs qui va monter le projet et où la communauté, l'agglomération sera associée et aidera, bien évidemment. Et puis, il y aura aussi, comme ça s'est fait les années passées, un comice organisé sur la communauté d'agglomération, comice agricole. Voilà, où là, on pourra encore resserrer les liens entre les agriculteurs et les urbains, que ce soit des urbains qui soient en ville et même des urbains qui soient dans des communes un peu moins importantes pour recréer ce lien-là, parce qu'on s'aperçoit que les gens connaissent très peu leurs agriculteurs et l'agriculture en général. Donc c'est important, le souhait du président, c'est de refaire un comice à l'occasion de ce mandat.
D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les activités qui sont proposées en général dans les comices ou ce qui s'y fait ?
Bon, l'idée générale, c'est de reprendre quand même ce qui s'était fait à Candé, hein, donc le comice agricole organisé par la SDA, avec une commune support qui doit s'investir énormément. C'est un gros boulot pour la commune, mais c'est enrichissant. Et il y a des retombées, des belles retombées pour la commune. Point de vue cohésion de la population, c'est bien, ça fait vraiment un événement ponctuel où les gens se rassemblent pour cet événement et gardent des liens après. Nous, sur Candé, on a même eu des nouvelles associations qui se sont créées suite à ça, où les gens ont voulu continuer une certaine activité. Donc c'est vraiment enrichissant pour le village. Ensuite, la SDA, sur 2 jours, organise des concours agricoles, des présentations. Vraiment, c'est une journée... c'est 2 jours vraiment, vraiment festifs. Hein. On a eu 30 000 visiteurs à Candé à l'occasion du week-end. Et on avait fait une journée en amont, le vendredi précédent le comice, où là, on avait mis en place tout un tas d'ateliers pour les scolaires des écoles primaires. Donc il y a 1000 gamins qui sont venus ce jour-là et qui ont fait 2, 3 ou 4 ateliers différents, que ce soit les abeilles, le lait, enfin il y avait tout un tas de choses vraiment très, très intéressantes pour les enfants et fortement appréciées par les instituteurs. On a eu que des bons retours à ce niveau-là, donc ça je pense que ce sera quelque chose qui sera refait. Et ça, c'est vraiment la communauté de communes qui avait porté cette journée-là, au moins du point de vue financier et aussi pour l'organisation.
Donc un bel événement en perspective à mettre en place pour ces prochaines années. On espère que ça pourra se faire dans de bonnes conditions au vu des contraintes sanitaires.
Il n'y a pas de raison, il faut garder espoir.
L'émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont témoigné de leur engagement. N'hésitez pas à les rejoindre. À très vite dans une prochaine émission.